On est en train de suivre ici dans l'Église une série justement dans l'Évangile de Jean, donc on en est arrivé au chapitre 15. Et donc on va lire la partie qui va du verset 17, chapitre 15, jusqu'à chapitre 16, verset 15. D'accord ? C'est proche dans les chiffres, ne vous mélangez pas les pinceaux. Chapitre 15, verset 17 jusqu'à 16, 15. Voilà. Si vous avez le départ, je pense qu'on arrivera ensemble à la fin. Avant de lire, je voudrais vous parler de Alimyan Gimit. Peut-être vous le connaissez, peut-être vous avez entendu peut-être juste son nom. C'est un chrétien ouïghour de l'ouest, donc de la Chine. Et à côté de son travail pour une société agricole, il était pasteur, responsable d'une église clandestine, donc dans l'ouest de la Chine. Il est marié à Gulnur et il a deux fils. Et son fils aîné rentre à l'université cette année. Pourquoi je vous parle de lui ? Parce que ça fait 10 ans qu'ils ne se sont pas vus, lui et sa famille. Alimyan a passé plus de 3650 jours en prison à cause de Christ. Et il est maintenant incarcéré dans une prison classique, on va dire, entre guillemets, après un passage en camp de rééducation à la chinoise. Et il a le droit d'appeler sa femme une fois par mois. Parce qu'on peut juste essayer de s'imaginer quelle peut être la vie de ce frère en Christ depuis 10 ans. En tout cas, sa femme, Gulnur, elle témoigne. J'étais si faible que je ne pouvais à peine me lever. Mais le Seigneur nous a entendus et m'a donné une force nouvelle. Je peux aller de l'avant avec plus de courage et nous avons beaucoup appris. Je pourrais vous parler encore de beaucoup de personnes. En préparant ce message, j'ai pensé aussi à Rebecca, avec qui j'ai partagé un repas en 2010 dans une ville au nord du Nigeria. Quand on l'a rencontrée avec d'autres équipiers de Portes Ouvertes, elle avait perdu son mari 6 mois plus tôt. Elle a vu son mari, pasteur, être tué devant sa maison alors qu'une foule en furie était en train de saccager tout le quartier et de traverser les rues du quartier chrétien pour tuer. Et on l'a vu, elle pleurait bien sûr la perte de son mari, elle pleurait de solitude. Mais ce qui était touchant, c'était ce pourquoi elle était le plus inquiète en réalité, c'était pour un de ses fils qui à l'époque avait 6 ans. Et il n'avait qu'une seule chose, il attendait de grandir, bien sûr comme tous les enfants veulent grandir, veulent devenir des grands, mais lui il voulait devenir un grand pour se venger de ce qui était arrivé. Et Rebecca, sa maman, chrétienne, qui appartenait à Christ, demandait la prière pour que Dieu vienne changer le cœur de son petit garçon de 6 ans, pour qu'il comprenne l'amour que Dieu voulait manifester dans ce monde. Pour que Dieu vienne lui montrer pourquoi de telles choses pouvaient arriver, même quand on sert le roi des rois. C'est sûr que 8 années passées à travailler avec une mission au service des chrétiens persécutés, avec des visites régulières dans des contextes de persécution, ça m'a ouvert les yeux sur les réalités dont parle le passage de ce matin dans notre évangile de Jean. D'un côté, la haine du monde qui rejette Dieu, et d'un autre, la joie de ceux qui aiment Jésus, malgré tout, d'être ses envoyés dans ce même monde. Et ne croyons pas que ça peut être que des situations au loin, parce que aussi en France, dans mon engagement chrétien, j'ai pu voir, et vous aussi, vous serez témoin de ça, des circonstances peut-être un peu plus discrètes, moins choquantes, mais des amis qui ont tourné le dos, des membres de la famille qui ont coupé les ponts, un époux ou une épouse qui s'est détournée d'un frère ou d'une sœur dans la foi. Il y a des conséquences à appartenir à Christ. Je vous invite à lire le passage ce matin, donc Jean chapitre 15, verset 17. Il y a 3 choses qui ressortent de notre passage ce matin. En tant qu'ambassadeur de Christ dans le monde, nous sommes injustement détestés, résolument envoyés et glorieusement associés. Vous allez voir si vous retrouvez avec moi au moment de la lecture ces 3 choses. Dans le passage, injustement détesté, résolument envoyé et glorieusement associé. Ok, c'est Jésus qui parle. Il dit, c'est ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Mais vous n'êtes pas du monde. Je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse pour leur péché. Celui qui me déteste, déteste aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres qu'aucun d'autre n'a faites, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, ils les ont vues et ils nous ont détestés, moi et mon Père. C'est ainsi que s'accomplit la parole écrite dans leur loi. Ils m'ont détesté sans raison. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le début. Je vous ai dit cela afin que vous ne trébuchiez pas. On vous exclura des synagogues, et même l'heure vient où tous ceux qui vous feront mourir croiront offrir un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Je vous ai dit cela afin que l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je ne vous en ai pas parlé dès le début parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Injustement détesté, résolument envoyé et glorieusement associé. Vous avez vu au début de ce passage, il y a comme un contraste entre les versets 17 et 18. Jésus redit le commandement nouveau qu'il a donné précédemment à ses disciples, c'est-à-dire les 11 qui sont présents ce soir-là avec lui, et au-delà, à tous ceux qui auront mis leur foi en Jésus grâce au témoignage de ces mêmes 11-là, qui seront bientôt apôtres du Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, dit Jésus. C'est un commandement nouveau parce que la mesure de l'amour n'est plus la même. Avant, le commandement c'est « aime ton prochain comme toi-même ». Maintenant qu'on a vu Christ, qu'on a la pleine révélation de Christ, il s'agit d'aimer comme lui a aimé, à sa mesure à lui. En tant que disciple de Christ, ça signifie donner sa vie, viser la croissance spirituelle de ceux qui nous entourent, viser à faire connaître Christ et manifester la vie que nous recevons de lui. Et on est appelé à vivre ça en particulier au sein de l'Église, mais aussi dans le monde. Et cet amour et ce commandement sont nouveaux aussi parce qu'ils vont être rendus possibles par le don du Saint-Esprit dont Jésus parle aussi dans ce passage. 50 jours après cette fameuse soirée dont on est en train de lire un peu le discours, à la Pentecôte, le Saint-Esprit a été en effet envoyé et donné avec une plénitude nouvelle à la communauté des croyants. Donc, d'un côté, on a ce commandement de Jésus d'aimer, et en particulier d'être une communauté de personnes qui aiment comme Christ. Mais en tant que communauté attachée au récepte, CEP, qui manifeste la vie de Christ, Jésus nous avertit aussi, nous annonce que nous serons injustement détestés. Détestés par le monde. Il faut comprendre un petit peu qu'est-ce que Jésus entend par le monde. Dans un sens, c'est toute la création. Dans certains endroits de l'Évangile, ça désigne juste tout ce qui a été créé, bien sûr. Mais dans ce contexte ici, c'est un petit peu plus précis. Il s'agit de tout ce qui est de la première création, si vous voulez. Tout ce qui a été marqué par le péché maintenant, depuis Genèse chapitre 3. Tout ce qui est marqué par la rébellion vis-à-vis de Dieu. Et bien sûr, ça concerne en particulier les hommes et les femmes qui vivent loin de Dieu et de celui qu'il est venu révéler, Jésus-Christ. Alors, on pourrait trouver des raisons sociologiques à ce rejet, cette haine du monde vis-à-vis de la communauté des disciples de Jésus. Nous, on aime chanter, mais pas forcément toujours les mêmes chants. On aime rigoler, mais pas toujours avec les mêmes blagues. On a une haute vision de la vie humaine dès la conception, une haute vision de la sexualité, du mariage, comme étant des bonnes choses créées et données par Dieu, qu'on cherche à vivre en accord avec le concepteur, avec Dieu qui nous les a données. Et ce n'est pas trop à la mode en ce moment. Mais en réalité, Jésus nous dit que les raisons principales de l'hostilité du monde sont d'ordre plus profond, sont d'ordre spirituel. Et la personne visée par cette haine et ce rejet, ce n'est pas nous directement, mais Christ. Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous, dit Jésus. Et on voit ça dans les évangiles, celui de Jean comme les autres. Au fur et à mesure de l'avancement du ministère terrestre de Jésus, l'opposition contre lui grandit, jusqu'au point même où les autorités religieuses décident de le supprimer. Et la foule va se joindre à cette décision. Et Jean, il nous dit, le rejet, il avait même commencé avant ça. Au premier chapitre de son évangile, nous lisons, « Au commencement était la parole, c'est-à-dire Jésus-Christ. La parole était avec Dieu. » Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Cette lumière, cette manière de désigner Jésus comme la parole ou comme la lumière, ça parle de révélation. Jésus est venu pour révéler Dieu, pour manifester qui est Dieu. Elle a brillé dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Verset 6, toujours au chapitre 1. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui, par son témoignage à lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Vous voyez, si le monde vous déteste, dit Jésus aux disciples, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Ça remonte à très très loin en avant. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Le monde déteste tous ceux et celles qui sont maintenant unis alors à Christ dans la foi. En étant associés à lui, nous attirons aussi cette hostilité du monde. Christ nous a choisis, nous a fait naître de nouveau, de sorte que nous n'appartenons plus à cette création-ci, tout en y étant encore pour un temps. On a été sortis du monde par Jésus. De nouveau, c'est pas par une quelconque supériorité naturelle, c'est pas parce que parmi nous, il y en aurait qui mériteraient plus cela, à cause d'une spiritualité supérieure à d'autres, ou parce que par notre moralité, on aurait prouvé qu'on avait droit aux faveurs de Dieu. Non, non. Nous aussi, nous tous, sans exception, moi, en premier, on était morts dans notre péché, rebelles, égarés, comme les autres. Et on n'aimait pas Dieu, on n'aimait pas la révélation de Jésus-Christ. Si quelqu'un arrête de détester Jésus et Dieu, c'est une grâce, c'est un cadeau que Dieu lui fait de lui ouvrir les yeux sur la réalité. Jésus dit qu'il nous a choisis, qu'il a choisi les disciples pour être unis à Christ. Et c'est pour cela que le monde les déteste. Voyez verset 21. Ils vous feront tout cela à cause de moi. Non pas pour une raison à trouver en eux-mêmes. La raison, la cause est en Jésus. Et cette haine, elle va se voir en particulier lorsque les disciples et nous à leur suite, on va rendre témoignage à Christ. C'est lorsque nous affirmerons et expliquerons et vivrons l'Évangile que nous verrons le plus d'hostilité. Vous voyez, il y a deux raisons que Jésus met en avant, au verset 22 et au verset 24. Ça commence avec « si je ne leur avais pas parlé » et verset 24 « si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres qu'aucun d'autre n'a faites ». Il y a deux raisons. La première, c'est que le monde rejette la révélation de Jésus, les paroles de Jésus. Je dois vous confesser quelque chose, peut-être certains ont déjà entendu ça de ma part. J'ai grillé un feu rouge, une fois en Belgique, à Bruxelles. Un véhicule de police était là, et les officiers, bien sûr, ont relevé ma plaque. Ce qui fait que quelques jours plus tard, j'ai reçu un courrier, une convocation au commissariat. Et j'avais deux choix dans ce courrier, ou bien venir payer une amende dans un délai, je ne sais plus, d'une semaine ou deux, ou bien, je pouvais aussi dans ce même délai contester, faire une lettre, et du coup, il y aurait une convocation prévue au tribunal. Je pourrais passer devant un juge pour essayer de plaider ma cause. J'ai choisi de payer l'amende, même si elle était salée, en fait, à la hauteur de la gravité de ma faute. J'y suis allé pas fier, bien sûr, mais si j'avais voulu contester, qu'est-ce que j'aurais pu dire au juge? J'avais rien à dire. J'avais fait ce qu'il ne fallait pas faire. J'avais passé au rouge. Toutes mes justifications auraient été faibles par rapport à la faute. Vous voyez, le verdict que les officiers avaient constaté et fait remonter à la justice était conforme à la réalité. Et que je veuille contourner à droite ou à gauche, c'était impossible. J'étais face à cette réalité-là, d'avoir grillé le feu rouge. La même chose ici, le verdict de Dieu est juste. Il est vrai, il est conforme à la réalité. Mais certains choisissent de continuer à contester. Mon procès verbal pour ce fameux feu rouge disait la vérité. Au fond de moi, j'aurais préféré que ce ne soit pas vu, que personne n'ait rien remarqué. Au fond de moi, peut-être j'aurais préféré que personne ne vienne me reprendre sur cette erreur. C'est un peu la même chose ici. Jésus dit, si je n'étais pas venu et je ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables. Ça ne veut pas dire que c'est à cause que Jésus a parlé que maintenant on est coupable. C'est parce que Jésus parle et donc ça devient manifeste maintenant. Ça devient évident qu'on est à côté de la plaque quand on se tourne loin de Dieu. Et donc maintenant, ils n'ont aucune excuse pour leur péché. Le monde n'a pas reconnu sa culpabilité, il a cherché des excuses qui ne tiennent pas, comme si j'avais voulu moi plaider ma cause devant le juge. Et en réalité, faire cela, chercher des excuses, chercher à rejeter la parole de Jésus, ça revient à détester non seulement Jésus, mais celui qu'il a envoyé pour porter ce message, c'est-à-dire Dieu le Père. voyez la deuxième raison que Jésus donne, elle est au verset 24. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres qu'aucun autre n'a faites. Le monde rejette la parole de Jésus et rejette aussi ses œuvres, c'est-à-dire les preuves que ce qu'il est venu affirmer, il a toute autorité pour l'affirmer. Qu'il est légitime pour dire tout ce qu'il dit. Ses œuvres sont la preuve qu'il est bien Dieu le Fils incarné, envoyé du Père, le Messie. D'ailleurs, tout le but de l'évangile de Jean, n'est-ce pas, c'est qu'il a écrit tous ces signes, toutes ces choses que Jésus a faites pour que l'on croie que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie, et qu'en croyant, on ait la vie en son nom. Est-ce que vous vous rappelez un petit peu toutes ces choses qu'on a vues dans l'évangile de Jean déjà ? Jésus est déjà passé au tribunal des hommes qui lui faisaient un procès. Il a déjà fait venir ses témoins à la barre. Si vous vous rappelez, c'est dans le chapitre 5, il y avait Jean-Baptiste, son père, ses paroles en accord avec celles de Moïse, ses œuvres, etc. Mais de nouvelles preuves sont venues s'ajouter au fur et à mesure de l'évangile. Rappelez-vous l'eau changée en vin à Cana. Rappelez-vous à la piscine de Bethesda, la guérison du paralytique. Rappelez-vous la multiplication des pains. Rappelez-vous la guérison de l'aveugle de naissance. Rappelez-vous la résurrection de Lazare. Jésus a ressuscité un homme qui était mort dans le tombeau depuis 4 jours par sa simple parole. Et le monde rejette ces preuves, ces évidences de la divinité de Jésus et de sa capacité à sauver. Bientôt, les uns et les autres vont rejeter même la croix et l'œuvre accomplie par Christ pour le salut d'un grand nombre de pécheurs. Pardon. Le monde n'a pas voulu reconnaître Jésus. Ce n'est pas un problème de manque d'information. C'est volontairement qu'ils ont rejeté les évidences et fabriqué des excuses parce que, de nouveau, ils ne voulaient pas de Dieu pour régner sur sa création. Ils ont détesté et Jésus et le Père. Le verset 25 dit « Ils m'ont détesté sans raison. » Et Jésus, en disant ça, il cite un psaume, le psaume 69. Faisons une petite pause ici pour réfléchir. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous ? Je pense que ça nous montre le caractère profond du péché. C'est rendu évident par cette animosité du monde à laquelle nous étions participants précédemment, dans laquelle peut-être nous sommes encore si nous n'avons pas mis notre foi en Jésus. Ça nous montre l'irrationalité du péché. C'est sans raison. C'est pour essayer de se sauver soi-même, c'est pour essayer d'être soi-même Dieu. On se trouve des excuses pour essayer de mettre de côté le verdict de celui qui est au-dessus de nous. Le vrai, véritable Dieu qui a tout créé. Et si on peut voir au travers de cette animosité injuste du monde, le caractère noir du péché, on peut voir aussi la gloire, alors par contraste, de la restauration produite par Christ et qui sera de plus en plus évidente si nous vivons la communauté de disciples telle que Jésus l'a établie. C'est ma deuxième partie, résolument envoyée. Injustement détesté, mais cela ne doit pas être un motif de déroute pour les disciples. Cela ne doit pas non plus être un sujet de déroute pour nous. Jésus a été rejeté, les Écritures l'avaient annoncé depuis longtemps. Maintenant, si les disciples doivent faire face à l'hostilité du monde, Jésus reste résolu à les envoyer dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle du salut et de la réconciliation en son nom. Il veut que nous soyons aussi résolus et fermes dans notre mission d'être ses ambassadeurs. Pour cela, il rassure les disciples et il promet une aide glorieuse. Malgré cette haine et ses rejets, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et on voit bien dans ce texte comment les trois toujours sont à l'œuvre de façon unie, Dieu donc n'abandonne pas son projet. Il ne se replie pas. Vous savez, l'évangile, c'est un mot emprunté. J'ai été rappelé de ça dernièrement. Ce n'est pas les chrétiens qui ont fabriqué ce mot évangile et l'ont pris dans la culture de l'époque. En fait, l'évangile, ça signifie bonne nouvelle. C'était une bonne nouvelle qui était proclamée dans tout l'Empire, qui annonçait un changement objectif de réalité qui avait eu lieu. Ça pouvait être une décision de l'empereur de, je sais pas, baisser les impôts, de donner la liberté à telle partie de la population. Ça pouvait être aussi l'annonce d'une victoire. Et vous avez peut-être en tête Philippe d'Est, le fameux coureur de marathon qui a fait tout le parcours pour annoncer « On a gagné, on a gagné !» et qui s'est écroulé malheureusement pour lui à la fin. Mais c'était une bonne nouvelle, il était venu annoncer cette bonne nouvelle et ça a changé. Plus de guerre, c'est fini. C'était une nouvelle qui était proclamée dans tout l'Empire, qui concernait tous les habitants de l'Empire, de tous les peuples, qui était censé être un sujet de réjouissance, de joie. Eh bien, Dieu lui-même, dans la personne du Saint-Esprit, va rendre témoignage à Christ, à sa personne et à son acte de salut sur la croix. C'est l'Esprit de la vérité qui vient pour annoncer aussi cette bonne nouvelle. C'est exactement ça que Jésus est en train d'annoncer ici. Les disciples et nous, à leur suite, en nous appuyant sur leur témoignage, nous porterons le message de Christ. Quand nous parlerons, c'est Christ lui-même qui fera entendre sa voix. Jésus et le Père sont résolus à envoyer le Saint-Esprit, parce que c'est le projet de Dieu de continuer de faire connaître Christ, de faire connaître la bonne nouvelle du salut en Jésus. Le Saint-Esprit va être à l'œuvre alors au travers du témoignage et de la proclamation de l'Évangile porté par les disciples. Vous voyez, Dieu ne change pas son projet, il ne change pas ses moyens d'accomplir ce projet. La parole éternelle de Dieu sera révélée. Le Saint-Esprit est celui qui va rendre ça manifeste dans les cœurs, et des hommes et des femmes choisis par Dieu vont porter cette parole partout dans le monde. Le projet de Dieu continue et Jésus veut qu'on sache deux choses. Verset 1 et verset 4. Je vous dis cela afin que vous ne trébuchiez pas. Verset 4. Je vous dis cela afin que l'heure venue, vous vous souveniez que je vous ai dit tout cela. Jésus veut que nous ayons une bonne vision des choses, de peur de nous détourner de ce qui compte vraiment, ou même de renier le Christ comme Judas vient de le faire quelques heures ou minutes auparavant. Il faut s'attendre, même avec cette aide et cette mission glorieuse, à affronter l'animosité du monde. Un rejet religieux, ils vous excluront des synagogues, un rejet social ou sociétal, puisque toute la culture était autour de la religion aussi. Donc, se détacher de ces modes-là, c'était se mettre à part. Même certains mettront à mort des chrétiens en pensant que c'est une forme d'acte religieux et d'adoration pour Dieu. Et il suffit de regarder de nouveau certains pays où les chrétiens sont durement persécutés. Il suffit de regarder en arrière dans l'histoire de cette région même, marquée par cette réalité. Les Vaudois ont été persécutés ici. Je connais une amie qui, depuis sa conversion à Christ, n'a plus été invitée par sa famille. Elle a été mise de côté. Elle n'est plus invitée aux anniversaires, elle n'est plus invitée dans les réceptions qui sont organisées. D'autres sont là, mais ils sont l'objet de moqueries et de paroles blessantes, où on les empêche de parler, de s'exprimer. Peut-être que vous avez vu des anciens amis tourner le dos, vous tourner le dos, à cause de votre foi en Christ. Alors Jésus prévient ses disciples pour que leur venue, ils ne soient pas décontenancés. L'heure dans l'évangile de Jean, c'est le moment où Jésus sera crucifié. Et ça va être un peu terrible de voir le Maître, le Seigneur, lui-même être persécuté à ce point, cloué sur une croix. Mais c'est aussi une allusion probable à la propre heure des disciples, quand eux aussi seront devant un choix. Tenir bon dans la foi et proclamer l'évangile du salut en Jésus jusqu'au bout, ou le renier. Et si nous marchons avec Jésus, nous aussi nous aurons des heures comme celle-là. Je pense que ce que Jésus veut alors nous enseigner ici, c'est il veut surtout qu'on ne soit pas surpris, ni passif, ni effrayé. Regardez au verset 15-20. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Tout n'est pas sombre dans ce tableau que Jésus nous dépeint. Rappelez-vous ce que Paul dit, par exemple, dans la lettre aux Romains. L'évangile, c'est aussi la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, n'est-ce pas? Pensez à Nicodème. Entre le début de l'évangile et la fin, on le voit changer. Il a cette longue discussion une nuit avec Jésus et à la fin, on voit qu'il a mis sa foi en Jésus. Pensez à la femme samaritaine au bord du puits à midi, en train d'expérimenter la même chaleur que vous êtes en train d'expérimenter là, qui a soif. Et Dieu lui parle et elle réalise que Jésus est le Messie envoyé par Dieu. Et non seulement elle, mais tous les habitants de son village, de Sichar, qui lui disent « Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, Jésus, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Si maintenant il y a une part de tristesse, de crainte ou d'appréhension, la vérité, dit Jésus, c'est qu'il vaut mieux pour nous recevoir le Saint-Esprit envoyé du Père et du Fils. Et persévérer dans cette mission que Dieu nous confie d'être ses porte-parole dans ce monde. C'est un acte de foi dans la parole de Jésus. Il est préférable pour nous d'avoir le Saint-Esprit en nous. Jésus est en train de dire, nous ne perdons rien. Au contraire, un défenseur, un consolateur semblable à Christ est avec nous. Et pour nous, il est en nous, en train d'œuvrer dans ce monde et dans notre propre vie. C'est le but de Dieu que nous accomplissions les œuvres plus grandes, comme Jésus l'a annoncé au chapitre 14, que nous portions du fruit, comme il l'a annoncé au chapitre 15. C'est le but de Dieu que Dieu reçoive plus de gloire et que nous goûtions toujours plus la joie et l'espérance de la vie éternelle, même dans l'épreuve. Il valait mieux que Jésus parte, qu'il monte au ciel, en passant par la croix, parce que cela nous donne la possibilité d'avoir un vrai message à annoncer aujourd'hui. Oui, le pardon des péchés est possible. Injustement détesté, résolument envoyé par Dieu, par Jésus, avec l'aide du Saint-Esprit, alors aussi glorieusement associé à l'œuvre de Dieu dans le monde. Voyez, lorsque le défenseur, le consolateur viendra, il amplifiera le ministère de Jésus d'une façon que les disciples ne pouvaient pas prévoir. Le retentissement de cette parole portée par les disciples sera à un niveau que Jésus ne pouvait pas accomplir lui seul dans sa mission terrestre. Regardez avec moi verset 8. Quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Nous avons un allié puissant dans la mission qui nous est à nous aussi confiée. Cet allié, c'est le Saint-Esprit, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Et verset 9 explique ce que ça signifie, verset 10 explique ce que ça signifie en rapport avec la justice, et verset 11 explique davantage ce que ça signifie en ce qui concerne le jugement. Le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, c'est-à-dire il ne laissera pas tranquille ceux qui sont en train de s'éloigner de Jésus, en train de s'égarer loin de Dieu. Il ne laissera pas ignorant de son état, de la gravité de la situation, de son besoin du salut, les hommes et les femmes de ce monde. Même malgré l'incrédulité qui peut perdurer pendant un temps, il fait cela, le Saint-Esprit. Il met en lumière la réalité de ce qui se passe dans les cœurs. Et vous savez, cette œuvre de conviction, c'est une grâce. Non pas une manière d'être mesquin et hargneux, c'est plutôt une grâce, c'est un bienfait, parce que ça vise à amener les hommes et les femmes du monde à reconnaître leur besoin de venir à Jésus pour obtenir le pardon. Et par là même, à cesser de faire partie du monde rebelle vis-à-vis de Dieu. le Saint-Esprit, il va convaincre le monde en matière de justice. Il va déclarer le monde coupable dans sa conception de la justice. Le monde poursuit sa propre justice, souvent basée sur les mérites, sur la comparaison les uns avec les autres, sur parfois des rites, des gestes, comme s'il y avait de la magie ou des choses qu'on pouvait faire qui produiraient la faveur de Dieu envers nous. Mais la vraie justice, celle dans laquelle il faut compter, dans laquelle il faut croire, c'est celle qui vient de Dieu et qui est le résultat de la croix. Le fait que le sacrifice de Christ a été pleinement suffisant, c'est vu dans la résurrection et l'ascension de Jésus à la droite de Dieu. C'est pour ça que le verset 10 dit ceci: « Je vais auprès de mon Père et vous ne me verrez plus ». Ça parle de ce moment-là où Jésus va donner sa vie à la croix pour retourner à Dieu. Le Saint-Esprit va déclarer le monde coupable en matière de jugement, parce que Christ revient et la croix est déjà le signe du jugement de Dieu sur le péché. Christ a dû mourir pour porter les fautes de pécheurs comme vous et comme moi. Et en mourant sur la croix, il annonce déjà la défaite de l'ennemi, du prince de ce monde. Le mal est déjà jugé comme mal. Et dans le temps de la patience de Dieu, Dieu appelle toute personne à mettre sa confiance en Christ pour ne pas avoir à payer cette dette lui-même, elle-même, mais à reconnaître que Christ a, par amour, accepté de payer cette dette pour un grand nombre de pécheurs qui mettent leur confiance en lui. L'issue ne fait aucun doute. Le prince du monde lui-même est déjà jugé, et tous ceux qui auront persévéré dans la rébellion avec lui le seront aussi. Si vous êtes parmi nous ce matin et que vous êtes en train de découvrir ou peut-être redécouvrir Christ et sa parole, vous êtes en cheminement, vous ne savez pas encore trop bien où vous situez, quoi penser, je suis conscient que le message ce matin est peut-être un peu dur à entendre et à avaler. Alors sachez d'abord qu'on est heureux que vous soyez là avec nous. Et peut-être vous vous dites, mais moi je ne suis pas si terrible que ça quand même. Et je connais des tas et des tas de personnes qui ne sont pas chrétiennes et sont super sympas. C'est vrai. Et j'en connais aussi pareillement. C'est un effet de la grâce commune, n'est-ce pas? Dieu est tellement bon qu'il ne laisse pas le monde aller aussi loin qu'il pourrait en intensité dans le mal, dans sa rébellion contre lui. Dieu fait en sorte que le monde reste vivable, qu'il ne soit pas aussi sombre qu'il pourrait l'être. Alors oui, c'est vrai, tous les êtres humains sont capables d'actes de bonté et de générosité. C'est une grâce de Dieu, ça vient de Dieu déjà. Mais aussi peut-être, si vous trouvez que vous êtes attiré par Christ, vous avez envie de mieux connaître Christ, si vous avez envie de vous désolidariser de ce monde qui veut rejeter Christ, si vous n'êtes pas à l'aise avec les moqueurs de Christ, c'est peut-être un effet de la grâce particulière de Dieu envers vous. Une manifestation, justement, de l'œuvre de l'Esprit Saint qui vient vous convaincre de la vérité à propos de Jésus, de sa parole, de son œuvre sur la croix. Alors j'aimerais vous encourager, j'aimerais que vous puissiez vous réjouir et continuer de faire appel à Jésus pour le connaître, lui et celui qui l'a envoyé, le Père Céleste. La volonté de Dieu, c'est d'associer à lui tous ceux qu'il sauve. Et c'est ce que Jean nous dit ici, en rapportant les paroles de Jésus. Jésus dit: « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant ». Ça s'adresse en particulier aux 11 qui sont avec lui à cet instant-là. Et il promet: « Quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir ». Tout que le Saint-Esprit va communiquer aux 11, ça ne vient pas de nulle part, ça vient de Dieu lui-même. Il révélera la gloire de Christ parce qu'il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Et ce que Christ a, vous voyez au verset 15, ça appartient, ça vient du Père. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Donc c'est solide, c'est costaud, c'est béton. On peut vivre une vie en s'appuyant sur les paroles de Jésus. Et pour nous qui n'étions pas là ce soir-là, avec Jésus, quelle assurance nous pouvons avoir dans ce que les apôtres ont consigné par écrit. Parce que justement, le défenseur est venu, l'esprit de la vérité, il les a conduits dans toute la vérité pour mettre par écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible, un message sûr et certain pour nous. Et quand nous continuons de marcher à la suite de Christ, quand nous plongeons nos regards dans cette parole, la promesse est aussi pour nous que le Saint-Esprit sera à l'œuvre pour nous révéler qui est Jésus, comment vivre pour l'honorer, comment recevoir de lui les ressources dont nous avons besoin pour une vie dans ce monde. Alors que Jésus appelle une communauté de disciples à être ses ambassadeurs dans le monde, la question se pose, est-ce que nous faisons partie des disciples? Est-ce que nous avons mis notre confiance en Jésus? Est-ce que nous sommes de ceux qui désirons garder sa parole? Si c'est le cas, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre en nous, qui est en train de nous attirer vers Jésus. Si c'est le cas que nous sommes des disciples, il faut que nous nous attendions à être injustement détestés. Mais ne perdons pas courage, ne trébuchons pas, car Jésus et le Père et le Saint-Esprit sont résolument attachés à nous envoyer comme des ambassadeurs dans ce monde pour porter la bonne nouvelle. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Mais s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Nous sommes glorieusement associés à l'œuvre de Dieu par le Saint-Esprit. Et ça, c'est un sujet de joie et de reconnaissance pour tous ceux qui appartiennent à Jésus. Le prince de ce monde est déjà jugé et nous verrons la réalité de ce message que nous avons commencé à annoncer de nos propres yeux. Quelle joie! Je t'invite à prier pour terminer.